dans cette carte postale de Belgique aujourd'hui, vous allez apprendre un épisode méconnu, pour ne pas dire totalement inconnu, de la fuite des Juifs de Belgique pendant la Shoah. Herbestal est un petit village frontalier par lequel de nombreuses personnes sont passées pour être sauvées de la barbarie nazie, à savoir que Herbestal est un petit village à la frontière belgo-allemande. Alain Brose est docteur en histoire, histoire de l'art et en archéologie. Il enseigne l'histoire à la Calamine, c'est une petite ville dans les cantons de l'Est de notre pays, et il nous explique tout cela.
Bonjour à tous. Et si je vous disais que, ici, dans nos forêts, sur nos routes, dans nos villages, des milliers de personnes ont tenté de fuir l'une des plus grandes tragédies de l'histoire. Entre Aix-la-Chapelle et Eupen, entre Raren et Herbestal, une frontière discrète, presque invisible, est devenue une ligne de vie ou de mort. Ici, on les appelait les passeurs de l'ombre. Certains sauvaient des vies, d'autres vendaient leurs prochains comme des bêtes qu'on mène à l'abattoir. Ici, des enfants sont montés dans les trains, sans leurs parents, sans savoir qu'ils ne les reverraient jamais. Ici, dans le silence des bois, des hommes et des femmes ordinaires ont fait des choix lourds de conséquences. Aider, trahir ou détourner le regard. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans une histoire méconnue, celle des Juifs qui ont fui la persécution nazie en passant par notre région. Une histoire qui s'est déroulée juste ici, dans les frontières orientales de l'ancien duché de Limbourg. Dès la prise de pouvoir par les nationaux-socialistes en janvier 1933, la région frontalière entre l'Eifel et la Belgique devient un espace de transit crucial pour ceux qui cherchent à échapper au régime explicitement antisémite. Cette zone, caractérisée par une géographie rurale et des liens transfrontaliers étroits, voit naître ce que l'on appelle la Grüne Grenze, une frontière verte, un réseau de sentiers de contrebande utilisés autrefois pour le trafic de denrées alimentaires, et notamment le café, et, à partir de 1933, pour l'immigration illégale. Dans les premières années, les fugitifs sont principalement des opposants politiques, communistes, socialistes, pacifistes. Mais la persécution raciale contre les Juifs s'intensifie rapidement. Le climat antisémite gagne l'Eifel, stimulé par la propagande nazie dans les journaux locaux comme le Westdeutsche Beobachter, qui dénonce les soi-disant souillures raciales et les mariages mixtes. À Eupen, bien que territoire belge depuis le traité de Versailles, le mouvement Heimat Treue Front, ouvertement pro-nazi, gagne en influence, important l'antisémitisme du Troisième Reich dans les cantons de l'Est. Le passage de la frontière devient un commerce à la fois lucratif mais dangereux. Les sources distinguent les Judenschlepper, les passeurs de juifs, qui agissent parfois par idéalisme, mais le plus souvent pour de l'argent. Chaque passage leur rapportant en effet des sommes allant de 300 à 3500 Reichsmark. Et il n'est pas rare que certains gardes-frontières allemands aident les juifs à quitter le Reich. Et puis, il y a les Judenfänger, les chasseurs des Juifs, qui dénoncent ou attrapent eux-mêmes les fugitifs, une activité également fort lucrative. La Weinbahn, la ligne de chemin de fer qui traverse plusieurs fois la frontière, sert également de vecteur de fuite. Des points de passage célèbres belgo-allemands, comme Losheimer Graben ou Reinhardshof, deviennent des stations de transit secrètes. La Calamine, petit village frontalier belge de 4500 habitants, est la plaque tournante du trafic frontalier. 7 compagnies de taxis proposent de transporter les Juifs jusqu'à Bruxelles ou Anvers, où les comités d'aide aux réfugiés les confient à la protection des autorités belges. Depuis 1933, près de 13 000 réfugiés bénéficient ainsi de la protection de l'État belge. Le point culminant de cette crise migratoire survient après la nuit de cristal du 9 novembre 1938. Au cours d'une série de pogroms, une violence inimaginable se déchaîne contre la population juive d'Allemagne, d'Autriche et de Danzig. 7500 entreprises et commerces juifs, 267 synagogues sont détruits. 91 personnes sont assassinées et 30 000 juifs sont envoyés dans les camps de concentration. Face à l'urgence, spontanément, des organisations internationales organisent les Kindertransport, des transports d'enfants, permettant à près de 10 000 enfants juifs, principalement d'Allemagne et d'Autriche, d'être envoyés vers des pays d'accueil comme la Belgique et la Grande-Bretagne. Le Reich, avare en visa pour les juifs, accepte exceptionnellement l'émigration des jeunes et des enfants juifs. Seule condition posée par celui-ci, les enfants doivent voyager sans leurs parents. Les familles juives sont confrontées à un choix cornélien. Vaut-il mieux rester unis et en famille ou se séparer au risque de ne jamais se revoir? Si certaines familles pensent encore que la situation avec les nazis n'est que transitoire et que Hitler va se calmer, d'autres ont parfaitement compris que les lois du sang de Nuremberg et la nuit de cristal ne sont que le prélude d'une politique de destruction des juifs impitoyable. Pour ceux qui prennent leurs valises, l'adieu est déchirant. C'est un adieu et non pas un au revoir. Sauf à quelques rares exceptions près, les enfants ne reverront ni leurs parents, ni leurs frères et sœurs aînés restés au pays. Ceux qui partent ne savent pas qu'ils prennent un aller simple pour la vie, alors que d'ici peu, leurs familles prendront un aller simple pour la mort. À cette époque, la politique d'émigration belge est l'une des plus libérales d'Europe. Mais il y a certaines conditions. Des familles d'accueil devaient s'engager à veiller sur les enfants juifs et à les entretenir financièrement. C'est ici précisément que le courage de certains citoyens belges, refusant l'antisémitisme et l'indifférence, a pu sauver de nombreuses vies. La gare de Herbestal, aujourd'hui dans la commune de Lansen, a cependant connu un épisode déchirant. Loin de voyager dans des wagons Pullman, les enfants font le voyage sur les bancs de bois de la troisième classe, voire parfois dans la quatrième classe, comme si ces enfants n'étaient que des marchandises. Un témoin parle de conditions pipi et caca. En l'occurrence, la gare de Herbestal, la première gare belge sur la ligne reliant Aix-la-Chapelle à Liège, a joué un rôle central dans les Kindertransport, car entre fin 1938 et mai 1940, environ 1000 enfants juifs ont traversé Herbestal pour trouver refuge en Belgique ou pour transiter vers la Grande-Bretagne. Alors que 220 enfants entrés légalement dans le pays avaient été accueillis quelques jours auparavant avec le consentement des autorités belges, entre le 2 et le 8 janvier 1939, la police frontalière refuse à 70 enfants juifs non accompagnés l'entrée dans le pays. Elle renvoie froidement 35 d'entre eux âgés entre 12 et 15 ans vers le Reich. Le ministre Joseph Folien affirme que les parents de ceux-ci avaient mis les enfants dans le train sans visa et étaient restés sciemment à Aix-la-Chapelle en vue de les rejoindre plus tard en traversant illégalement la frontière. Le destin de ces enfants reste aujourd'hui encore en partie inconnu. Les policiers pourtant ne font qu'appliquer les ordres reçus directement du ministre de la Justice catholique intransigeant, Joseph Folien, qui a été propulsé à ce poste grâce à la victoire électorale du mouvement Rex en mai 1936. Sa politique consiste à refouler hors des frontières toute personne entrée clandestinement dans notre pays. Et quand bien même ce fugitif aurait des raisons légitimes de fuir son pays, il lui faut refuser toute protection. Folien n'agit pas seul, mais avec l'accord unanime de l'ensemble du gouvernement du socialiste Paul-Henri Spaak, un des fondateurs de l'Union européenne après-guerre, et qui, depuis juin 1938, tente d'endiguer le phénomène d'immigration massive de juifs. 160 gendarmes renforcent la surveillance des frontières germano-belges. Leur mission est simple, renvoyer vers le Reich tous les immigrants clandestins et plus particulièrement les Juifs. Suite à l'expulsion des 35 enfants juifs vers le Reich, une vague d'indignation sans précédent secoue tout le pays. La presse et des personnalités de premier rang, comme par exemple la reine Elisabeth en personne, s'investissent tambour battant pour que les conditions d'entrée des réfugiés juifs soient assouplies. Mi-janvier 1939, le ministre Follien autorise l'entrée dans le pays à 750 enfants âgés de moins de 14 ans. Mais ce sont près de 1000 enfants juifs qui peuvent quitter le Reich et ses persécutions pour aller à l'abri en Belgique. Discrédité par sa politique intransigeante, Follien est destitué au début de 1939. Et, malgré le déclenchement de la guerre, un réseau juif de Cologne organise encore jusqu'en 1940 des transports d'enfants entre Aix-la-Chapelle et Herbestal. Quoi qu'il en soit, les sources décrivent des scènes déchirantes sur les quais de la gare. Des enfants âgés de seulement 6 ans, séparés de leurs parents et qu'ils ne reverront plus jamais. À Herbestal, cependant, et tous les témoins sont unanimes, les enfants ont été accueillis amicalement. Pour certains, c'est même la première fois de leur vie. On leur offre du cacao, du lait, des tartines et des vêtements chauds. Ça leur a réchauffé le cœur. Le premier arrêt en Belgique est l'un des plus beaux souvenirs dans cette histoire tragique. Une petite partie de ces enfants a pu retrouver leurs parents qui ont traversé illégalement à pied la frontière verte et ont trouvé des logements à Bruxelles. Malheureusement, au cours de l'occupation de la Belgique, un grand nombre d'adultes ont été arrêtés et déportés. Donc, si retrouvailles il y a eu, elles n'ont été que de courte durée. Beaucoup d'enfants, en revanche, ont pu être cachés par la résistance et souvent avec la complicité de l'Église. Deux tiers des enfants transportés dans les trains ont survécu à la guerre, mais un tiers d'entre eux ont été assassinés à Auschwitz. Un mémorial réalisé par l'artiste d'Aix-la-Chapelle Sebastian Schmidt et inauguré en 2019 à Herbestal commémore cet événement. Il représente un groupe d'enfants assis sur leurs valises, devant d'anciens wagons de marchandises, symbolisant ce mélange de détresse absolue et d'espoir d'une liberté retrouvée.
Judaïka 90.2 FM.
Et oui, c'est une histoire, je vous le disais, peu connue, voire inconnue, et Alain Broz se fait un plaisir de perpétuer la mémoire dans les cantons de l'Est de notre cher pays. Alain Broz qui a d'ailleurs créé une chaîne YouTube sur laquelle il poste des vidéos toutes plus intéressantes les unes que les autres, et dans lesquelles il revient sur les grands moments de l'histoire de sa région, notamment les Juifs pendant la Shoah, et on aura l'occasion de le retrouver très bientôt. Rejoignez-le et abonnez-vous, ça s'appelle Doc de Limbourg, c'est sa chaîne YouTube, elle est pleine de pépites et comme je vous le disais, il nous reviendra très vite avec d'autres anecdotes.